Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais j'ai comme un petit problème avec l'amassage, le fait d'entasser tout un tas de trucs allant des disques aux livres en passant par un paquet de babioles à l'utilité excessivement relative. Ce qui est sûr, c'est que cet attachement aux objets, à la possession, il est de moins en moins raccord avec l'époque. Outre le règne de plus en plus absolu du minimalisme à la Marie Kondo, on assiste surtout à une refonte de la notion même de propriété. Ainsi, dans une journée, on peut facilement se déplacer sur un vélo loué pour son trajet, aller bosser dans un espace de coworking et se divertir en écoutant de la musique ou en regardant une série sur une plateforme de streaming à laquelle on est abonné, sans avoir à aucun moment concrètement possédé ni le vélo, ni le bureau, ni les disques ou épisodes qu'on a consommés. Et je ne vous parle même pas des logiques collaboratives encore plus poussées, qu'il s'agisse du logiciel libre, des jardins partagés ou des licences Creative Commons plus que jamais populaires. Sur ce constat, plusieurs interrogations. Est-ce que la notion de propriété a toujours du sens ? Est-ce que cette économie du partage, qu'on nous vend régulièrement comme un moyen de renouer du lien et de recoudre le tissu social, n'est pas qu'un vulgaire argument commercial derrière lequel se cachent de grands groupes ? Est-ce que tout ça va nous emmener vers plus d'équité ou juste encore plus d'ultra-libéralisme ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, histoire de ne pas partir le nez au vent, posons quelques bases à notre réflexion. Comme à chaque fois que je me retrouve confronté à un sujet où se bousculent des notions de droit, et c'est le cas de la propriété, je me suis évidemment tourné vers notre spécialiste maison, maître Clara Benyamin, avocate et surtout patronne du podcast Besoin de rien, envie de droit, à qui j'ai demandé tout simplement la propriété, légalement, c'est quoi ?
Alors, en France, on est assez attaché à cette notion. C'est-à-dire que déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on va venir te dire, je vous épargne les articles, mais qu'en gros, les droits naturels et imprescriptibles des gens, c'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire qu'on place au même niveau la propriété que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc c'est déjà pas n'importe quoi. Et dans le même texte, il est précisé que la propriété est un droit inviolable, sacré et dont nul ne peut être privé. On est donc sur un truc très solennel.
Ouais, assez costaud.
Ouais, c'est assez costaud. Et pour finir sur vraiment la notion de propriété globale et dans son ensemble et en tant que notion, le Code civil prévoit que la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. Donc, tout ça pour dire, on a été un peu exhaustif là, mais tout ça pour dire que c'est important, la propriété dans le droit français.
Si on part dans les questions qui, toi, te concernent directement, on va dire, vu que c'est des dossiers que tu maîtrises sur le bout des doigts, qui sont les questions de propriété intellectuelle. Si on fait un petit cas pratique, est-ce que je suis propriétaire, moi, de la musique et des films que j'ai achetés, je dis bien, pas loués, sur Internet ?
Alors, ça dépend comment.
Aha.
Aha. C'est-à-dire que si tu possèdes un abonnement Netflix, partons du principe que c'est le tien que tu utilises, qui est lié à ton compte bancaire, tu n'es propriétaire d'absolument rien. C'est une plateforme de location. Idem les podcasts. En fait, je ne suis pas propriétaire d'un enregistrement, jamais, même si je l'ai payé, par exemple. Mais le principe de toutes ces plateformes, en fait, c'est que tu acquiers un droit d'usage. Tu vois, tu as le droit d'écouter le truc. C'est la même chose sur iTunes. Même quand tu achètes un enregistrement sur iTunes, techniquement, ta bibliothèque ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu ne possèdes pas un enregistrement, à la différence de quand tu achètes le compact disque, par exemple. Là, tu possèdes l'enregistrement, on y revient juste après. Mais tout ce qui est dématérialisé, en fait, ce que tu acquiers, c'est le droit de t'en servir. C'est le droit de l'écouter. Donc, alors, on va prendre l'exemple d'une chanson que tu achètes sur iTunes, même que tu as payé, hein, avec tes 99 centimes. Tu acquiers le droit de l'écouter sur iTunes.
D'accord.
Et à la différence d'un compact disque, tu n'as pas le droit de le donner, de le prêter, tu n'as pas le droit de le reproduire, tu ne peux pas le détruire, tu vois, alors qu'un CD, tu peux le casser, tu peux le donner à tes potes, tu peux le léguer à tes enfants, et c'est toutes ces choses-là que tu ne peux pas faire avec une propriété dématérialisée.
Parce que oui, un CD, alors pour le coup, on n'est pas propriétaire de l'œuvre, mais on est propriétaire quand même de sa duplication, son enregistrement de sa copie.
Tu es propriétaire d'une copie, d'une reproduction. Et c'est la même chose avec un livre. Tu vois, prenons quelque chose que les gens achètent encore, quoique. Un ouvrage, un livre, quand tu l'achètes, tu possèdes donc non pas l'œuvre, tu possèdes la reproduction. Mais même pour un tableau où il y aura un exemplaire unique, en fait, tu possèdes le support matériel, mais tu ne possèdes jamais l'œuvre. Voilà. Et en plus, en France, on a ce qu'on appelle le droit moral, qui est impossible à vendre, à céder, qui ne se perd jamais. Tu sais, on parle de domaine public, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Ça, donc, c'est pour ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits moraux, les droits extra-patrimoniaux, hors de la patrimonialité, eux, ils sont jamais prescriptibles. Et ça fait que, par exemple, même si j'achète demain un tableau que je mets chez moi, alors encore faut-il que quelqu'un vienne chez moi pour vérifier ce que j'en ai fait, mais techniquement, j'ai pas le droit de mettre un coup de canif dedans parce que je trouverais ça plus joli.
Parce que tu n'as pas les droits moraux sur cette œuvre.
Et que le droit moral, ça protège l'artiste sur toute une série de plans, et notamment le droit au respect de l'intégrité de son œuvre.
La propriété, on a vu, c'est une notion qui est très importante dans le droit français. Est-ce qu'elle évolue dans le droit, ou est-ce qu'elle est régie toujours par les mêmes codes que tout début de ce qu'on a évoqué tout à l'heure?
Alors, les articles qu'on a cités là sont toujours en application, mais il est vrai qu'il a fallu s'adapter, notamment avec toute l'arrivée de la propriété dématérialisée, tu vois, avec les questions de plateforme. Après, c'est pas non plus extrêmement différent d'aller à la bibliothèque, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas prendre un livre à la bibliothèque...
C'est un usage qui dérive un peu de ça, oui.
Oui, c'est un truc un peu comme ça, sauf que là, t'as en plus pas le livre dans ta main. Tu vois, si tu loues un livre sur la plateforme Amazon qui te permet de louer des bouquins, c'est finalement un peu la même chose que si tu le louais à la bibliothèque, juste t'as pas le bouquin dans ta main.
Si on fait un autre petit cas pratique, parce que la propriété, ça ne pose pas que des questions de possession ou de dépossession ou de voilà d'avoir les choses, ça pose aussi des questions en termes d'usage, notamment je pense à tout ce qui concerne les propriétés communes, on va dire, c'est-à-dire le fait de par exemple d'utiliser des vélos en service en libre service,
des
trottinettes, quelle horreur, en libre service, tu connais moi ma passion pour ces engins de mort, ce genre de choses. Par exemple, est-ce que je suis mieux protégé si j'ai un accident, mettons, sur mon vélo qui est à moi, que j'ai payé avec mes sous, avec le salaire mirobolant que me verse Binge Audio? Merci beaucoup. Ou si je me prends le même accident avec un vélo que j'ai pris justement en libre service?
Alors, il y a plein de variables qui entrent là-dedans. Oui,
j'imagine.
Mais en fait, finalement, ton assurance, elle va être un peu la même que tu sois sur un vélo qui est à toi ou un vélo qui est pas à toi.
Là, la notion de propriété joue pas.
Non, mais alors par contre, j'ai lu les conditions générales d'utilisation de Vélib ce matin.
Ah, c'est gentil,
merci,
Clara.
Merci Thomas. On s'amuse ensemble,
mais
on apprend des choses.
On apprend des choses.
En fait, le principe aussi, c'est que, assez logiquement, si jamais je prends mon vélo et que je me casse la gueule sur mon vélo et que je casse mon vélo, tant pis pour moi. Si jamais je casse le Vélib, il va en plus falloir que j'indemnise Vélib.
Ah,
parce que c'est pas à moi en fait. Tu vois, donc ça pose plein de questions, alors notamment sur l'écologie, tu vois, sur plein de choses comme ça. Mais sur une question de propriété, quand quelque chose est à moi, j'ai le droit de le casser. Quand quelque chose n'est pas à moi, quand je le loue, je n'ai pas le droit de le casser. Donc là, tu devras, au surplus de potentiellement, je sais pas, payer un supplément sur ton assurance l'année prochaine et t'être fait un bobo, tu devras... Sauf si tu abandonnes le vélo comme un traître, tu n'es pas. Il faudra que tu indemnises la réparation du vélo.
Une fois ces fondamentaux posés, allons un cran plus loin et soumettons nos questionnements à quelqu'un qui creuse depuis pas mal d'années déjà ces sujets. Benjamin Coria est économiste, il enseigne à l'université Paris 13 et fait partie des économistes atterrés, une association classée très à gauche, opposée aux théories néolibérales. Pour sa part, Benjamin Coria s'intéresse depuis des années au commun, c'est-à-dire à tout ce qui touche à l'économie partagée. Il leur a consacré plusieurs ouvrages, dont un baptisé « Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire » paru en 2015 aux éditions Les Liens qui libèrent. Je lui ai donc demandé si, selon lui, la notion de propriété avait encore du sens aujourd'hui.
Oui, elle a, j'ai envie de dire, malheureusement, beaucoup de sens, y compris dans sa forme classique de propriété exclusive, privative et exclusive, qui régit encore énormément de contrats. Hein. Donc là-dessus, elle a gardé toute sa force. Alors maintenant, ce qui est exact, c'est que notamment avec le numérique, mais pas seulement, émergent d'autres formes de propriété avec d'autres contenus. Alors, en particulier, c'est ce que maintenant on appelle la propriété partagée, ou quelquefois encore mieux, la propriété inclusive, c'est-à-dire au lieu d'exclure, elle inclut des groupes en donnant, si vous voulez, on assiste à quelque chose de ce point de vue qui est un espèce de démembrement des différents attributs de la propriété pour les allouer à différents acteurs, individus, groupes, etc. Le propre du code civil, hein, la notion de propriété au sens premier, strict, si je peux dire, enfin premier, non, au sens du code civil. Bon, c'est justement de dire la propriété, c'est la manière de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on dispose. Donc c'est le contraire de l'idée de démembrement où on partage. Bien. Bon, donc cette idée-là, elle est toujours forte, comme je l'ai dit, dans beaucoup de contrats, notamment de contrats de droit privé. Mais elle est battue en brèche par le fait que autour d'un objet, hein, on de plus en plus, et le numérique va beaucoup y contribuer, on va y revenir, donc autour d'un objet de plus en plus, on alloue des droits. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont avoir le droit de propriété, donc éventuellement le droit d'aliéner ce bien, donc qui est la caractéristique dernière, ultime du droit de propriété, hein, c'est le droit d'aliéner. Mais, hors le droit d'aliéner, il y a le droit de tirer parti du bien, le droit d'y avoir accès, le droit d'y avoir accès et de le dupliquer. Le cas des logiciels libres, hein, parce que rentrons dans le vif du sujet. Le cas des logiciels libres, c'est pas des logiciels hors propriété. Hein. Ils sont couverts par des copyrights. Donc le droit de propriété existe. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus du droit de propriété exclusif, c'est du droit de propriété inclusif. C'est-à-dire que le détenteur du copyright, c'est-à-dire les créateurs, les développeurs qui ont conçu le logiciel, en le mettant sous une licence de type copyleft, de type logiciel libre, crée de l'inclusivité. C'est-à-dire qu'ils autorisent le plus large usage, la duplication, la modification, l'accès au code source, etc. Et donc, si vous voulez, c'est pas une négation du droit de propriété, contrairement à ce qu'on croit. C'est très important, ça. Hein. Mais c'est un usage inclusif du droit de propriété au lieu d'avoir un usage exclusif. Alors, cette forme qui est rendue célèbre, si je peux dire, par le logiciel libre, en fait, le numérique lui donne une extension considérable. Parce qu'on a maintenant toutes sortes de sites, on va dire, qui sont basés sur ce qu'on appelle les Creative Commons, c'est-à-dire dans lesquels les créateurs, qui peuvent être des musiciens, qui peuvent être des peintres, des photographes, etc., déposent sur le site leur création avec des droits d'usage dont ils décident l'ampleur et les limites. Ça veut dire que le plus souvent, ils vont autoriser des usages privés. Hein, c'est-à-dire, vous allez pouvoir évidemment bénéficier de la galerie de peintures, de photos ou de l'ensemble des musiques disposées, proposées, pour les écouter librement dans un certain nombre de cas, on va vous autoriser même à les télécharger, mais dans la plupart des cas, vous n'aurez pas un droit d'usage commercial de ça. En cas d'usage commercial, il faut contacter les propriétaires à travers le site qui vont négocier les conditions dans lesquelles ils vous donnent ou ils ne vous donnent pas le droit d'usage commercial. Donc, vous voyez, on est sorti de la propriété exclusive, intégrale, etc. Voilà, c'est des formes partagées. Alors, ça arrange tout le monde, ça. Hein. Il y a beaucoup de créateurs que ça arrange parce que, par ce biais, ils se font connaître bien, alors que sinon, ils resteraient dans l'anonymat. Et les usagers privés, si je peux dire, vont avoir accès à toute une série de biens culturels, hein, en l'occurrence, auxquels ils n'auraient pas accès. Et évidemment, ils ne pourront pas en faire commerce. Mais ça, c'est bien normal, si j'ose dire.
Cette notion de, justement, de partage de plus en plus étendu, elle se cantonne pas uniquement au monde numérique, elle vient de plus en plus dans le monde physique. Je pense notamment à tout ce qu'on voit de plus en plus fleurir dans les villes de moyens de transport partagés, de ce Absolument. Genre de choses. Est-ce que pour vous, ça participe de la même dynamique ?
Vous avez tout à fait raison. Historiquement, ça a concerné d'abord des biens fonciers, hein. Ce qu'on appelait les communs, hein, qui sont donc les formes initiales de propriété partagée, sont des formes qui ont été extrêmement importantes du 12e au 19e siècle. En Angleterre, par exemple, un tiers des terres étaient en accès ouvert. Et c'était des terres en accès partagé où les commoners, hein, donc c'est-à-dire les habitants des villages, etc., avaient accès à des ressources, avaient accès aux poissons des rivières, avaient accès aux animaux de la forêt, aux fruits des arbres, etc. Voilà. Et donc, il y avait un accès partagé. Alors, cette forme, elle a été progressivement détruite. En France, le Code civil a sonné le halali, hein, de ces formes. Bon. Mais on les voit revenir. Donc, on les a vus revenir non seulement pour des biens immatériels, ce dont on parlait tout à l'heure, mais effectivement pour des partages de biens physiques. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Alors, vous parliez, voilà, du covoiturage, du couchsurfing, des lieux, des ce qu'on appelle maintenant les tiers-lieux, hein, qui sont en accès partagé, qui sont souvent d'ailleurs donnés par les mairies ou les municipalités. Et quand je dis donné, c'est pas donné, c'est justement l'usage qui est alloué à différents groupes qui vont se partager l'espace pour en faire des lieux d'animation divers.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez inattendu finalement de voir que ces usages émergent d'un univers qui est donc le numérique, qui nous avait plutôt habitués à donner le là de l'ultralibéralisme ou de l'ultracapitalisme ces dernières années, et qui en fait par une espèce d'heureux hasard renoue plutôt avec une tradition qui a plutôt été celle de la gauche, voire de la gauche, celle du partage, parce que notamment ces questions de propriété partagée ont longtemps été un des combats des mouvements ouvriers, notamment au début du XXe siècle. Il y a quelque chose d'assez inattendu dans tout ça.
Mais j'ai envie de dire oui et non, parce que on a tous en tête l'image des grandes firmes prédatrices, hein, du net, voilà, Uber, Airbnb, etc. Mais à la vérité, le modèle, il n'a pas été inventé par elles. Il a bien été inventé de manière citoyenne. C'est-à-dire que, au départ, le covoiturage, le coworking, le couchsurfing, c'est-à-dire le fait de loger des gens, c'est des pratiques spontanées, hein, des citoyens pour s'entraider, pour économiser, pour utiliser mieux les biens, avec des soucis d'écologie, hein, aussi. Hein, le covoiturage à San Francisco, par exemple, c'est un souci d'écologie. Bon. Et en fait, ce sont les grandes firmes qui ont hacké le modèle, mais dans le mauvais sens du terme, si je peux dire, et qui se sont emparées du modèle pour en faire de la verticalité et pour en faire du business, si je peux dire. Donc, comment dire, c'est bien la tradition, j'ai envie de dire, underground, qui existait de manière informelle, et a été la première à s'emparer de l'économie numérique pour développer ces formes d'économie de l'entraide, on va dire. Et c'est ensuite les grands prédateurs du net qui sont venus s'emparer de ces modèles. Mais historiquement, c'est pas ce qu'on croit. Hein, je veux dire, il y a d'abord eu l'économie collaborative, ensuite des modèles verticaux de firmes, de grandes entreprises se sont greffés là-dessus. Et d'ailleurs, malheureusement, dans un certain nombre de cas, on réussit à chasser les acteurs coopératifs. Bon, dans la réalité des cas, ça coexiste. Hein, ça coexiste. Alors bien sûr, il y a une large domination des très grandes firmes, mais tout n'est pas joué. Hein. Prenez le cas de Wikipédia, par exemple. Bon, au début, lorsque Wikipédia a commencé à offrir ses services d'encyclopédie en ligne, les grandes encyclopédies marchandes, l'Encyclopédia Britannica, pour la langue anglaise, etc., se sont foutus de Wikipédia en disant « c'est quoi votre truc là d'amateur ?» En plus, c'est rempli d'erreurs. Bien. Allez, la réponse de Wikipédia a été « oui, bien sûr, il y a des erreurs, bien sûr, mais nous avons plusieurs centaines de milliers, voire millions de vigiles qui nous les signalent. Et nous mettons en moyenne, je crois qu'à l'époque, c'était 3 mois à corriger nos erreurs. Vous mettez 25 ans, parce qu'il faut attendre une nouvelle édition. Et donc, pendant 25 ans, vous racontez des crasses à vos lecteurs. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que l'Encyclopédia Britannica a disparu. Alors, je m'en réjouis pas, hein, parce que je pense que, voilà, je suis prof, je pense que dans le domaine de la culture, c'est l'abondance qu'il nous faut, bien. Je ne m'en réjouis pas. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que ce modèle n'a pas perdu du tout. Hein. Il y a un certain nombre de cas où il a été gagnant. Dans le domaine du logiciel libre, les gens ne le savent pas. En général, ils ne le savent pas, sauf que ceux qui sont voilà. Mais le net ne marcherait pas sans des dizaines, des centaines de logiciels libres qui soutiennent l'économie du net. Donc, je veux dire... de manière très visible, on voit les GAFA, hein, Google, Apple, Amazon, etc., qui occupent des parts de marché gigantesques, etc. Mais si on regarde de manière un tout petit peu plus intelligente, si on peut dire, et astucieuse, on est couvert par ces réseaux coopératifs. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas joué, hein, c'est pas joué. On va bien voir ce qui va se passer.
On restera quand même un poil méfiant quant au but profond des acteurs de plus en plus nombreux qui nous proposent de nous lancer grâce à leurs outils dans l'aventure du partage, parfois au passage, moyennant un accès massif à nos données qu'ils revendront à prix d'or. C'est là que je fais mon vétéran relou des internets, mais n'oubliez pas ce vieil adage du web, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Merci à Clara Benyamin et Benjamin Coria pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Tant que je vous tire, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, à partir du mardi 11 juin jusqu'au jeudi 13 juin, nous vous proposerons un reportage en 3 parties consacré à la grève des femmes qui se prépare en Suisse, réalisé en coopération avec la RTS, la radio-télévision suisse. Ne le ratez surtout pas. D'ailleurs, si vous ne voulez manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi, tant qu'à faire, à Besoin de rien, Envie de droit, le podcast de Clara. Pour nous parler, c'est Facebook ou Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.